La foi dans la résurrection et la vie éternelle sont pour beaucoup un point absolument central de la foi chrétienne. Pourtant, cela ne va pas de soi. Et je ne pense pas que l'on doive se forcer à tout croire sans se poser de questions. D'ailleurs, déjà du temps de Jésus, le débat était vif. On le voit ainsi répondre aux Sadducéens qui, eux, ne croyaient pas à la résurrection des morts et qui, partant d'une conception quelque peu simpliste et enfantine de celle-ci, essayaient de lui montrer qu'elle était absurde. Ce passage se trouve dans l'Évangile de Marc, au chapitre 12, à partir du verset 18. Les Sadducéens, qui donc disent qu'il n'y a pas de résurrection, viennent auprès de Jésus et lui font cette question. « Maître, voici ce que Moïse nous a commandé. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une descendance à son frère. » Or, il y avait sept frères. Le premier s'est marié et est mort sans laisser de descendance. Le second a pris la veuve pour femme et est mort sans laisser de descendance. Il en a été ainsi de même du troisième. Et aucun des sept n'a laissé de descendance. Et après eux tous, la femme est morte aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme ? Car les sept l'ont eue pour femme. Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur, et vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Et pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson ? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. » Et au sein même du christianisme, se posait évidemment la question de savoir que pouvait bien être cette résurrection des morts qu'on promettait. Et l'apôtre Paul en particulier va consacrer tout un chapitre de sa première lettre aux chrétiens de Corinthe à cette question. Et voici ce qu'il dit au chapitre 15 à partir du verset 35. Quelqu'un dira, « Comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils ? » Insensé, ce que tu sèmes ne reprend pas vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain, de blé peut-être ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair. Mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Et il y a des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre est celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles, et même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal qui est premier. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste. Tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. En théorie, la résurrection et la vie éternelle sont donc des croyances fondamentales du christianisme. Mais concrètement, elles sont vécues de façon assez différente par les uns et les autres. Pour certains, la croyance en la résurrection représente le fondement de leur espérance, alors que pour d'autres, il s'agirait plutôt d'une chose difficile à croire, d'un obstacle à la foi. Dans une première approche du christianisme, on pourrait considérer que cette croyance dans la résurrection est accessoire. D'abord, il n'en est pratiquement pas question dans l'Ancien Testament. Elle n'apparaît que dans la tradition orale des Juifs. Et c'est pourquoi les Sadducéens, qui s'en tenaient aux textes écrits de l'Ancien Testament, n'y croyaient pas. Mais il est vrai que Jésus, lui, y croyait. Cependant, devrions-nous refuser le titre de chrétien à quelqu'un qui adhérerait à tout l'Évangile, en laissant de côté cette question de la vie après la mort? Après tout, l'essentiel n'est-il pas dans le commandement d'amour, dans la grâce, dans le service, le don de soi, l'humilité? Et puis, de toute façon, disent ceux qui n'y croient pas, ou pas tellement, qu'est-ce que cela change à ma façon de vivre, qu'il y ait une vie éternelle ou pas? Même s'il n'y a pas de résurrection, l'essentiel n'est-il pas de faire le bien, de croire dans la présence de Dieu, de croire au secours qu'il apporte à celui qui se tourne vers lui, de croire à sa bienveillance, qu'aucune faute ne peut diminuer? Oui, l'essentiel de l'Évangile n'est-il pas de faire le bien gratuitement, et non pas dans un but intéressé, pour obtenir une éventuelle récompense qui serait dans un autre monde? Mais je pense néanmoins qu'une telle foi serait quand même une foi incomplète. L'annonce de la résurrection et de la vie éternelle est réellement quelque chose de central dans l'Évangile. La vie éternelle est indissociable d'une certaine conception de l'être humain et du sens de son existence. Mais on n'est pas obligé de la concevoir d'une façon enfantine, où l'on se retrouverait là-haut, à peu près comme ici-bas, comme des gens qui pourraient se serrer la main dans un paradis qui serait une sorte de grand salon mondain. Il y a bien des manières de croire à la vie éternelle. Au minimum, il y a ceux qui pensent que, même après leur mort, ils laisseront quelque chose par les œuvres qu'ils auront faites et par ce qu'ils auront pu transmettre. Bon, cela peut sembler bien faible, mais ce n'est déjà pas rien. Cela va déjà dans le sens d'un verset que l'on trouve dans l'Apocalypse et qui dit « Heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, ils se reposent de leurs peines et leurs œuvres les suivent. » Et puis cela suppose une conception finalement très chrétienne de la vie. Celle-ci n'étant pas faite d'abord pour consommer le monde, mais pour servir, pour agir, pour donner aux autres. Et comprendre que notre vie n'a de sens que dans la mesure où elle se tourne vers les autres, vers le monde, c'est déjà se positionner dans une certaine vocation, qui est la vocation première de l'homme, qui a été créé à l'image de Dieu, pour être avec lui co-créateur dans le monde, en s'oubliant soi-même pour se donner à sa mission. Se poser ainsi la question de savoir ce que l'on laissera derrière soi dans le monde, c'est déjà la première des bonnes questions. Et cela tourne irrémédiablement la vie, dans le sens de l'Évangile, en faisant sortir de son propre égoïsme. Mais je crois tout de même que pour l'Évangile, la vie éternelle, c'est bien plus que ce que l'on laisse derrière soi. La vie éternelle est une dimension intrinsèque de notre propre existence. Et même celui qui n'aurait rien pu faire ou rien laissé derrière lui parce qu'il n'en avait pas les moyens, je crois qu'il a en lui une dimension éternelle. Mais quelle est cette vie éternelle? Là, la réponse est complexe. Parce qu'en effet, le Nouveau Testament lui-même n'est pas univoque à ce sujet. On trouve, il est vrai, des passages exprimant l'idée d'une résurrection après la mort physique pour un autre monde, après éventuellement un jugement dernier, comme on l'enseignait au Moyen Âge. Mais ces passages sont en fait relativement rares. Et on trouve dans le Nouveau Testament une autre conception des choses qui m'intéresse beaucoup plus. L'évangile de Jean en particulier, et aussi Paul, présente la vie éternelle plutôt comme une dimension particulière que peut trouver notre vie d'ici-bas, dimension qui transcende notre nature purement animale et qui ne meurt donc jamais, mais qui demeure toujours. Cette dimension spirituelle qui constitue, je crois, notre vie éternelle, elle apparaît par ce que Jean appelle la nouvelle naissance et que Paul appelle la résurrection. Et cette dimension, elle peut grandir, et c'est elle qui demeure, même après la mort physique. C'est ainsi que Jésus dit, dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Et au chapitre 5, « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, il est passé de la mort à la vie. » Ces paroles ne nous promettent pas la vie éternelle au futur, mais elles en parlent au présent. Celui qui croit, il a maintenant la vie éternelle. Et de la résurrection, il est question au passé. Celui qui croit, il est passé de la mort à la vie, et non pas il passera. Et Paul de même ne dit pas dans ses épîtres « vous ressusciterez après votre mort physique », mais il dit, comme en Colossiens 2 par exemple, « vous êtes ressuscités avec le Christ ». Ainsi, la résurrection pour Paul, c'est quelque chose que nous pouvons expérimenter de notre vivant, afin que nous passions de la mort spirituelle d'une vie pécheresse à la vie éternelle, qui est pour Paul de vivre avec le Christ. Et il ne s'agit absolument pas d'un futur merveilleux et hypothétique. Il est vrai qu'il est difficile de concevoir ce qu'est l'éternité, parce que dans ce monde matériel, il n'y a rien d'éternel. Mais précisément, croire en Dieu, c'est croire que la réalité ne se limite pas à ce qui est matériel et visible, mais qu'il y a des choses essentielles qui sont de l'ordre de l'invisible, qui ne peuvent ni s'acheter ni se vendre. Et nous faisons l'expérience que dans une vie humaine, la dimension animale, certes, a de l'importance, mais qu'elle n'est pas tout, et qu'elle n'est même pas l'élément capital. Il y a, dans chaque être humain, une dimension qui est de l'ordre de la qualité, de la profondeur de l'être, une dimension qui est de l'ordre de l'invisible, au-delà du matériel, et qui, elle, est essentielle. Et on peut croire que c'est justement ce qui, dans notre vie, est au-delà du purement physique qui est éternel. Cette dimension qui n'est atteinte ni par l'âge, ni par la maladie, ni par la pauvreté, et je crois, ni par la mort, c'est ça qui est notre vie éternelle. Et cette vie éternelle, elle l'est non pas en ce qu'elle durerait très 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 longtemps, mais en tant qu'elle est au-delà du temps. Elle est d'une autre nature. La science nous dit que le temps et la matière sont étroitement liés, et qu'ainsi quelque chose qui n'est pas matériel est nécessairement hors du temps. Paul dit d'ailleurs la même chose en 2 Corinthiens 4, « Nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont pour un temps, et les invisibles sont éternelles. » La vie éternelle que nous propose le Christ n'est pas une vie matérielle, qui serait rétabli dans un jour futur, pour durer indéfiniment. La vie éternelle, c'est plutôt cette dimension spirituelle de notre être, qui se forme pendant la vie de notre corps, dimension qui est au-delà du matériel, au-delà du temps. Et la vie éternelle est ainsi quelque chose qui est déjà présent en nous, qui se construit, qui se greffe sur notre vie physique passagère pour être propulsé dans l'éternité. Notre vie physique est un peu comme le lanceur d'un précieux satellite. Elle a sa fonction provisoire, mais elle n'est pas l'essentiel. Elle porte la dimension spirituelle, et celle-ci est appelée à continuer sa course une fois lancée pour aller au-delà. C'est encore bien ce que dit Paul en 1 Corinthiens 15. « Ce n'est pas le spirituel, dit-il, qui est premier, mais c'est le corporel. Mais pourtant, c'est le spirituel qui est essentiel et qui demeure. Une autre façon de concevoir cette dimension éternelle de notre vie nous est aussi offerte par l'apôtre Paul dans ce très célèbre chapitre 13 de sa première lettre aux Corinthiens. Il y affirme que tout passera sur terre, mais que trois choses seulement demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, la plus grande étant l'amour. Voilà peut-être aussi de quoi est constituée cette dimension éternelle de notre vie. C'est l'amour que nous avons vécu, l'amour partagé, l'amour reçu. Et je crois que c'est cela et seulement cela qui est éternel dans nos vies. De chaque existence, Dieu moissonne l'amour qui s'y est trouvé, la gratuité, le don de soi, l'accueil. Et c'est ça aussi qui est le poids, la gloire de chaque existence. C'est ça qui lui donne son sens. On pourrait dire autrement que nous sommes vraiment riches, non pas de ce que nous possédons, mais de ce que nous avons donné. Car ce que nous possédons, on peut nous le reprendre, et la mort nous le reprendra. Mais ce que nous avons donné, personne ne peut le reprendre. C'est une valeur, une richesse éternelle de notre existence. Ainsi, je ne sais pas si nous retrouverons, comme ici-bas, dans l'autre monde, les autres gens. Mais je crois que nous resterons toujours en lien avec ceux que nous avons aimés. D'une façon un peu symbolique, on pourrait donc dire que nous ne retrouverons que ceux que nous avons aimés, et seulement eux, parce que ce qui demeure, c'est le lien d'amour. Ou il serait plus juste de dire que nous ne retrouverons pas ceux que nous avons aimés, mais que nous restons unis à eux comme nous le sommes aujourd'hui. Cette dimension éternelle de notre être, elle est d'une toute autre nature donc que notre vie physiologique. Or, sans doute que beaucoup de ceux qui rejettent toute idée de vie après la mort ne le font que comme ces sadducéens, à partir d'une vision quelque peu enfantine de la vie éternelle. Et Jésus leur répond bien, en disant que s'il y a une vie après la mort, elle n'est évidemment pas de même nature que celle d'ici-bas. Et c'est aussi ce que dira Paul quand il parle d'un corps céleste qui est le corps de la résurrection et qui est d'une nature qui n'a rien à voir avec notre corps animal. Nous ne pouvons évidemment parler de tout cela qu'en termes imagés, mais il faut prendre garde à la naïveté, parce que parfois, elle peut devenir un obstacle à la foi de certains. Mais il est vrai qu'une telle conception de la vie éternelle se rapproche d'une certaine manière de l'idée de l'immortalité de l'âme, alors qu'il s'agit pourtant bien d'une résurrection, parce qu'il y a en Dieu une puissance de relever, une force qui peut redonner la vie, même à ceux qui seraient au plus bas. Et la vie éternelle n'est pas forcément le résultat d'un effort personnel de spiritualisation. Elle n'est pas le résultat d'un perfectionnement progressif, mais justement, elle peut être reçue comme une grâce quand on s'ouvre par la foi à la puissance de vie qui est en Dieu. Alors, quelle est l'importance pour nous de cette croyance dans la vie éternelle et dans la résurrection? Eh bien, je crois qu'elle est considérable. Cela veut dire que l'homme, d'abord, n'est pas condamné à la mort, mais qu'il est promis à la vie. Cela veut dire aussi que, comme des enfants, nous sommes tous en processus de croissance, de progrès. Et que même si notre corps extérieur se dégrade, dans ses fonctions même peut-être les plus précieuses, notre être invisible et intérieur, lui, peut se renouveler de jour en jour. Et cela veut dire aussi qu'il y a une dimension de l'essentiel dans l'être humain, essentiel qui est invisible pour les yeux, mais essentiel qui ne meurt jamais. Et le Nouveau Testament a été écrit pour nous dire quelle est cette dimension de l'essentiel, de l'invisible et de l'éternel qu'il y a dans la vie de chacun. Et tout cela a des implications très concrètes dans nos choix de vie, dans nos préoccupations principales et dans nos rapports aux autres. Cela nous permet de penser que ceux que nous aimons et qui sont morts ne sont pas seulement vivants dans notre cœur, mais que Dieu garde pour l'éternité tout ce qui est et qui a été en eux, de foi, d'amour ou d'espérance. Et cela veut dire que nous pouvons continuer à les aimer et que nous resterons avec eux, même si notre corps meurt, puisque l'amour est plus fort que la mort. Cela veut dire aussi qu'il y a une espérance possible et qu'il est bon d'aimer et d'agir pour les autres sur cette terre, puisque c'est cela et seulement cela qui est important. Cela et seulement cela qui donne un sens à notre vie et à celle des nôtres, et au monde même. En effet, l'être humain n'est pas qu'un corps voué au néant, mais dans chaque être humain, il y a une dimension du divin, une dimension invisible et éternelle. Paul, encore lui, l'exprime merveilleusement dans sa deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 4, quand il nous dit « C'est pourquoi ne perdons pas courage, car même si notre être extérieur se dégrade, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Et ainsi nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont pour un temps et les invisibles sont éternelles. Et nous savons que si cette tente où nous habitons sur terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite par la main de l'homme. »